Aventure du mystérieux étranger. Dans ma jeunesse, au sortir d'Oxford, on me fit voyager sur le continent pour achever mon éducation. Je crois que mes parents, après d'inutiles efforts pour m'inoculer la sagesse, voulurent me mêler à la société dans l'espoir que j'y arriverais naturellement. Telle semble du moins la raison pour laquelle les 9/10 de nos jeunes gens quittent l'Angleterre. Dans le cours de mes voyages, je restais quelque temps à Venise. Le caractère romanesque de cette ville me charmait. Je m'amusais beaucoup de l'air d'aventure et d'intrigue qui dominait dans ce pays de masques et de gondoles. Deux yeux noirs, langoureux, qui, du fond d'une menthe italienne, semblaient attaquer mon cœur, me séduisaient. Je me persuadais donc que je m'arrêtais à Venise pour étudier les hommes et les mœurs. Au moins, je le persuadais à mes amis. C'est tout ce qu'il fallait pour mes desseins. J'étais facilement frappée de tout ce que je remarquais de singulier dans les mœurs et dans les caractères. Et mon imagination était si remplie d'associations romanesques avec l'Italie que je courais sans cesse après les aventures. Tout dans cette vieille sirène de cité cadrait parfaitement avec mon penchant. Mes appartements étaient dans un superbe et triste palais sur les bords du Grand Canal, et jadis la résidence d'un magnifico et brillant encore des traces de sa grandeur passée. Mon gondolier était des plus rusés, gai, actif, intelligent et, comme ses frères, plus discret que le tombeau. C'est-à-dire pour tout autre que son maître. À peine avais-je passé une semaine avec lui qu'il avait levé devant moi tous les rideaux de Venise. J'aimais le silence et le mystère de ces lieux et, quand j'apercevais de ma fenêtre une gondole noire se glisser mystérieusement sur les eaux dans les ténèbres du soir, ne découvrant au regard que la faible lumière de sa lanterne, je montais moi-même dans ma tendeletta et je donnais le signal de la poursuite. Mais le souvenir des folies de mon jeune âge m'écarte de mon sujet. J'y reviens. Parmi les lieux que je fréquentais le plus était un casino sous les arcades de la grande place de Saint-Marc. J'avais coutume de m'y arrêter souvent et d'y prendre une glace dans ces belles nuits d'été que tous les Italiens passent en plein air. Un soir que j'y étais assis, un groupe d'Italiens vint se placer du côté opposé du salon. Leur conversation était gaie et animée et accompagnée de vives gesticulations italiennes. Néanmoins, je remarquai au milieu d'eux un jeune homme qui semblait ne prendre aucune part, aucun plaisir à la conversation, quoiqu'il parût s'efforcer de l'écouter. Il était grand, mince et de l'extérieur le plus prévenant. Ses traits étaient beaux malgré sa maigreur, une chevelure d'un noir brillant dont les boucles tombées autour de sa tête contrastaient avec son excessive pâleur. Ses yeux étaient hagards, des rides profondes où se lisait l'empreinte d'un grand chagrin sillonnaient son visage encore jeune. Il semblait tourmenté de quelque idée ou de quelque crainte bizarre. En dépit de tous ses efforts pour prêter son attention à la conversation de ses compagnons, je remarquai que, de temps en temps, il tournait lentement sa tête, jetait un regard sur son épaule et la retirait en tressaillant, comme si quelque chose de terrible avait frappé ses regards. Ce mouvement se répétait presque à chaque minute, et il semblait, à peine remis d'un choc, se préparer lentement à en affronter un autre. Après quelque temps passé dans le casino, la troupe paya ses rafraîchissements et partit. Le jeune homme sortit le dernier et je remarquai qu'au moment où il franchissait la porte, il jetait derrière lui le même regard. Je ne pus m'empêcher de me lever et de le suivre, car j'étais à un âge où s'éveille aisément le sentiment d'une curiosité romanesque. La troupe parcourait lentement les arcades, parlait et riait en marchant. Ils traversèrent la piazzetta et s'arrêtèrent au milieu pour jouir du coup d'œil. C'était une de ces nuits de pleine lune, si brillante et si pure sous le beau ciel de l'Italie. Les rayons de l'astre de la nuit s'étendaient sur la haute tour de Saint-Marc et éclairaient la magnifique façade et les dômes immenses de la cathédrale. Tous exprimaient leur admiration dans les termes les plus vifs. Lui seul semblait distrait et préoccupé. Je remarquai le même regard singulier et presque furtif qui avait attiré mon attention dans le casino. La troupe se remit en marche, je la suivis. Ils parcoururent la promenade nommée le Broglio, tournèrent au coin du palais ducal et, entrant dans une gondole, disparurent bientôt à mes yeux. La contenance et la conduite de ce jeune homme m'avaient frappé. Son extérieur avait quelque chose qui m'inspirait un vif intérêt. Un ou deux jours après, je le rencontrai dans une galerie de tableaux. Il paraissait habile connaisseur, car il s'arrêtait toujours devant les chefs-d'œuvre les plus frappants, et quelques remarques arrachées de lui par ses compagnons attestaient une profonde connaissance de cet art. Cependant, son goût s'arrêtait aux extrêmes les plus opposés. Dans Salvator Rosa, à ses scènes les plus sauvages, les plus solitaires, dans Raphaël, le Titien, le Corrège, à leurs portraits de femmes de la beauté la plus parfaite. Quelquefois, il les contemplait avec enthousiasme, mais ce n'était qu'un oubli d'un moment. Toujours revenait ce regard inquiet derrière lui, toujours aussi brusquement détourné, comme si quelque objet terrible venait de frapper sa vue. Je le rencontrais fréquemment au théâtre, dans les bals, concerts, aux promenades des jardins de San Giorgio, aux grotesques spectacles de la place de Saint-Marc, parmi les marchands au change près du Rialto. Il semblait, il est vrai, rechercher la foule, le tumulte, les fêtes, mais sans prendre jamais d'intérêt aux affaires ou aux plaisirs. Toujours, il semblait en proie à d'affligeantes pensées, à de désolantes réflexions. Toujours ce bizarre et perpétuel mouvement, ce regard de terreur jeté sur son épaule. Je l'attribuais d'abord à la crainte d'être arrêté ou peut-être assassiné. Mais alors, pourquoi se montrer sans cesse? Pourquoi s'exposer en tout lieu, à tout instant? Je devins avide de connaître cet étranger. J'étais entraîné vers lui par cette sympathie romanesque qui attire quelquefois des jeunes gens l'un vers l'autre. Sa mélancolie lui donnait à mes yeux un charme que rehaussait sans doute l'expression touchante de son visage et les grâces viriles de sa personne. Car la beauté virile fait effet même sur les hommes. J'avais à lutter contre la défiance et la timidité habituelles d'un Anglais, mais je l'ai surmonté. Et, le rencontrant souvent dans le casino, je fis peu à peu sa connaissance. Je n'y trouvais aucune difficulté de sa part. Il semblait au contraire rechercher la société et prêt à se soumettre à tout plutôt que d'être seul. Voyant que je lui portais un intérêt réel, il se livra sans réserve à mon amitié. Il s'attachait à moi comme un homme qui se noie. Il se promenait avec moi des heures entières sur la place de Saint-Marc ou passait une partie de la nuit assis dans mes appartements. Il se logea sous le même toit et sa prière constante était que je voulusse lui permettre, quand cela ne me gênait pas, de rester près de moi dans mon salon. Ce n'était pas qu'il parût trouver beaucoup de charme dans ma conversation, mais il avait besoin du voisinage d'un être humain et surtout d'un être qui sympathisa avec lui. « On m'a souvent parlé, disait-il, de la sincérité des Anglais. Grâce à Dieu, j'en ai enfin un pour ami. » Cependant, il semblait ne vouloir profiter de ma sympathie que pour rester près de moi. Il ne chercha jamais à me découvrir son secret. Son sein semblait rongé d'une angoisse cachée que ne pouvait calmer ni le silence ni les paroles. Une mélancolie cruelle dévorait son cœur et paraissait tarir le sang qui animait ses veines. Ce n'était pas cette douce mélancolie, le malaise des affections, mais une brûlante, une flétrissante agonie. Souvent, je remarquai que la fièvre avait desséché sa bouche. Il haletait plutôt qu'il ne respirait, ses yeux étaient enflammés, ses joues pâles et livides, quelquefois sillonnées de faibles lignes rouges, tristes rayons du feu qui le consumait. Souvent, quand il tenait mon bras, il le serrait près de lui avec un mouvement convulsif. Ses mains se fermaient d'elles-mêmes et une espèce de frisson parcourait tout son corps. Je raisonnais avec lui sur sa mélancolie et cherchais à en découvrir la cause. Il écartait toute confidence. « Ne cherchez pas à le savoir, me disait-il. Vous ne pourriez me soulager. Vous ne le chercheriez même pas. Au contraire, je perdrai votre amitié et je sens, disait-il en serrant ma main avec transport, je sens qu'elle m'est devenue trop chère pour que j'ose la risquer. » Je m'efforçais d'éveiller en lui l'espoir. À son âge, la vie lui offrait 1000 plaisirs. Un jeune cœur a une force qui guérit toutes ses blessures. « Allons, allons !» lui disais-je. « Il n'est pas de chagrin que ne puisse surmonter la jeunesse. »« Non, non !» répondait-il en serrant ses dents et frappant son sein avec l'énergie du désespoir. « C'est là, c'est là. Ses racines sont fortes. Il sèche le sang dans mon cœur. Il croit chaque jour et mon cœur se flétrit chaque jour. » J'ai un compagnon terrible qui ne me laisse pas de repos, qui me suit pas à pas et qui me suivra pas à pas jusqu'à ce qu'il m'ait conduit dans ma tombe. » À ces mots, il jeta involontairement sur son épaule un de ses regards craintifs et tressaillit plus vivement que jamais. Je ne pus m'empêcher de lui dire un mot de ce mouvement que j'attribuais à une simple maladie de nerfs. Au moment où j'en parlais, sa figure s'enflamma, ses traits se décomposèrent, il saisit vivement mes deux mains. « Au nom de Dieu !» cria-t-il d'une voix perçante. « Ne m'en reparlez jamais! Évitons ce sujet, mon ami. Vous ne pouvez me soulager, non. Vous ne le pouvez pas, mais vous pouvez redoubler mes tourments. Quelques jours, vous saurez tout. » Je ne revins jamais sur ce sujet, car, quelque vive que fût ma curiosité, je me sentais trop touchée de ses souffrances pour les augmenter par des questions indiscrètes. Je cherchais tous les moyens de le distraire et de l'arracher à la constante mélancolie où je le voyais plonger. Il sentait mes efforts et faisait tout pour les seconder, car il n'y avait en lui rien de fantasque ou d'opiniâtre. Au contraire, toute sa conduite montrait de la franchise, de la générosité, du désintéressement. Tous les sentiments qu'il exprimait étaient nobles et majestueux. Il ne réclamait pas d'indulgence, ne demandait pas de pitié. Content de porter en silence le poids de sa misère, il semblait ne chercher qu'à le porter près de moi. Il y avait en lui je ne sais quelle prière muette qui semblait demander ma compagnie comme une charité, comme une grâce, et dans ses regards un remerciement tacite qui semblait me témoigner sa reconnaissance de ce que je ne le repoussais pas. Je sentais que cette mélancolie était contagieuse. Elle se glissait dans mon âme, venait troubler mes plaisirs et attrister peu à peu ma vie. Cependant, je ne pouvais repousser un être qui s'attachait à moi comme à son unique soutien. D'ailleurs, le caractère généreux qui perçait à travers ce nuage avait pénétré mon cœur. Sa bonté était prodigue et sans limite. Sa charité touchante et spontanée ne se bornait pas à de simples présents qui humilient autant qu'ils soulagent. Le ton de sa voix, la douceur de ses regards, relevaient tous ses dons et étonnaient le pauvre suppliant par la plus rare, la plus précieuse des charités, celle qui vient non seulement de la main, mais encore du cœur. Sa libéralité semblait guidée par le désir d'une humiliation expiatoire. Il s'abaissait presque devant le mendiant. « Quel droit ai-je à la richesse, à l'abondance ?» se disait-il à demi-voix, quand l'innocence souffre dans la misère et sous les haillons. Le carnaval arriva. J'espérais que les scènes de gaieté que cette époque amène produiraient quelques rechangements. Je me mêlais avec lui à la foule bigarrée qui couvrait la place de Saint-Marc. Nous fréquentions les opéras, les bals, les mascarades, toujours en vain. Son mal croissait chaque jour. Il devenait de plus en plus hagard et agité. Souvent, entrant dans sa chambre au retour d'une de ses scènes de gaieté, je le trouvais étendu la figure sur un sofa. Ses mains serraient sa belle chevelure et toute sa personne portait les traces des convulsions de son âme. Le carême succéda au carnaval. La semaine de la Passion arriva. Nous assistions un soir dans une église à un service solennel où on devait exécuter un grand morceau de musique composé pour cette lugubre cérémonie. J'avais remarqué qu'il était toujours puissamment affecté par la musique. Il le fut ce jour-là plus que jamais. Quand les chants s'élevèrent dans ses voûtes immenses, il parut animé d'une vive ferveur. Ses yeux, levés au ciel, tournaient dans leur orbite jusqu'à ce qu'on n'en vit plus que le blanc. Ses mains étaient serrées l'une dans l'autre, au point que les doigts s'imprimèrent profondément sur la chair. Quand la musique exprima les agonies de la mort, sa tête s'abaissa par degrés sur ses genoux, et lorsque l'église retentit de ses paroles touchantes « Jésus mourit », des sanglots jaillirent de sa poitrine. Jamais encore je ne l'avais vu pleurer. Toujours j'avais vu en lui l'agonie plutôt que le chagrin. J'augurais bien de cette circonstance et laissais couler ses pleurs sans les arrêter. Le service fini, nous quittâmes l'église. Il s'appuyait sur mon bras, paraissait plus tranquille et ne ressentait plus cette agitation nerveuse dont j'avais été jusque-là témoin. Il me parla du service que nous venions d'entendre. « La musique, me disait-il, est vraiment la voix du ciel. Jamais encore l'expiation du Sauveur ne m'a plus vivement touché. « Oui, mon ami, dit-il, serrant les mains avec transport. Je sais que mon Rédempteur vit. » Nous nous séparâmes pour la nuit. Sa chambre était voisine de la mienne et je l'entendis remuer quelque temps. Je m'endormis, mais je fus éveillé avant le jour. Le jeune homme était près de mon lit, en habit de voyage. Il tenait à la main un paquet cacheté et un large carton. Il les déposa sur la table. « Adieu, mon ami, dit-il. Je vais partir pour un long voyage. Mais avant de vous quitter, je dois vous laisser ces souvenirs. Vous trouverez dans ce paquet les détails de mon histoire. Quand vous les lirez, je serai loin de vous. Souvenez-vous de moi sans haine. Vous m'avez servi d'ami, vous avez versé l'huile sur un cœur déchiré, mais vous ne pouviez le guérir. Adieu, laissez-moi baiser votre main. Je suis indigne de vous embrasser. » Il tomba à genoux, saisit ma main malgré mes efforts et la couvrit de baisers. Toute cette scène m'avait tellement surpris que j'étais hors d'état de dire un mot. « Mais nous nous reverrons, m'écriai-je en le voyant prêt à sortir. »« Jamais, jamais dans ce monde, dit-il tristement. » Il s'élança encore près de mon lit, saisit ma main, la pressa sur son cœur, sur ses lèvres, et sortit brusquement de la chambre. Ici, le baronnet s'arrêta. Il semblait égaré dans ses pensées et frappait de ses doigts le bras de son fauteuil. « Et ce personnage mystérieux reparut-il ? » dit le gentilhomme aux questions. « Jamais, » répliqua le baronnet, balançant tristement sa tête. « Je ne l'ai jamais revu. »« Mais de grâce, quel rapport cette histoire a-t-elle avec le tableau ?» dit le gentilhomme au long nez. « C'est vrai ?» reprit le questionneur. « Est-ce le portrait de ce cerveau fêlé d'Italien ?»« Non, » dit sèchement le baronnet, assez peu flatté du surnom qu'on donnait à son héros. « Mais ce tableau était renfermé dans le carton qu'il me laissa. Le paquet cacheté en contenait l'explication. Quelques lignes, écrites sur l'enveloppe, me priaient de ne l'ouvrir que 6 mois après son départ. Je gardais ma promesse en dépit de ma curiosité. J'en ai fait une traduction que j'avais dessein de vous lire pour éclaircir le mystère de la chambre, mais je crains d'avoir déjà trop longtemps fatigué la compagnie. Tout le monde, et surtout le gentilhomme en question, manifesta alors le désir d'entendre cette lecture. Ainsi, le digne baronnet ouvrit un manuscrit fait avec soin et, essuyant ses lunettes, lut à haute voix l'histoire suivante.